9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Le dimanche 4 août 1968, on n'est pas loin de Lisbonne, dans le fort de San Jean d'Estoril, qui est là, qui surplombe l'océan. C'est la résidence d'été du président du Conseil, Antonio de Oliveira Salazar. Salazar a 79 ans, toujours impeccable, les cheveux argentés lissés en arrière, cette mine sévère qui assume la dictature depuis 36 ans. Salazar est en train de lire son journal quand tout à coup il chancelle. Il tombe de sa chaise, se cogne la tête, il vient de faire un AVC. En septembre, il aura une nouvelle attaque et le président de la République va devoir nommer un nouveau président du Conseil, Marcelo Caetano. Ce qui veut dire que Salazar n'est plus au pouvoir. Il mourra d'ailleurs 2 ans plus tard, à la fin du mois de juillet 1970. Et disons-le, le bilan que laisse Salazar est assez effroyable. Le pays est exsangue, c'est un des plus pauvres d'Europe. Pas de liberté au Portugal, évidemment, à l'époque. Pays surtout empêtré dans 3 guerres coloniales, en Angola, en Guinée-Bissau et au Mozambique. Le nouveau président du Conseil, qui est assez austère lui aussi, va poursuivre ces guerres coloniales à coups de bombes au napalm, de bombes à fragmentation, d'herbicides sur les cultures ennemies. N'oubliez pas qu'on est à la fin des années 60. Rappelez-vous ce que font par ailleurs les Américains au Vietnam à la même époque. Hein. Ce sont les méthodes américaines. Les dépenses militaires représentent 1/4 du budget de l'État portugais. Les pertes portugaises s'élèvent à 8 000 morts, 30 000 blessés, 140 000 soldats ont été mobilisés. Le service militaire dure 4 ans à l'époque. Les jeunes hommes émigrent donc en masse pour essayer d'échapper à la conscription. Des familles entières fuient la pauvreté vers l'étranger, notamment vers la France, entre autres. Il y a une phrase à l'époque qui passe de bouche en bouche, on dit « Le dernier qui quitte le pays éteint la lumière ». Les tensions sont très importantes au sein même de l'armée. La victoire exclusivement militaire n'est pas viable, a dit le général Spinola. Il a 64 ans, Spinola, il est très à l'ancienne, hein, avec son monocle à l'œil droit, et lui plaide en faveur d'une sorte de Commonwealth portugais pour toutes ces colonies qu'on n'arrive plus à garder. Le président du Conseil, Caetano, sous la pression des ultras, va démettre de ses fonctions le général Spinola, précisément parce qu'il était pour une espèce de solution un peu diplomatique, et c'est une mutinerie qui éclate. 200 hommes vont marcher sur Lisbonne pour soutenir leur général. Ils vont être stoppés juste à temps, mais c'est un incident symptomatique. Les soldats, les sous-officiers sont épuisés. Ils sont moralement épuisés surtout. Et puis, disons-le, ils sont très mal payés. Ça ne fait qu'ajouter à leur nervosité.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
C'est à ce moment-là que Spinola et un autre général qui s'appelle Gomes vont décider de planifier un coup d'État. Ils vont créer un comité, le mouvement des forces armées, le MFA, qui se dote d'un programme politique dont en 3D, si je puis dire, décoloniser, démocratiser et développer. Il faut régler la question coloniale qui empoisonne le Portugal, il faut rendre à ces institutions une vie démocratique et il faut développer le pays économiquement, il est plus que très grand temps. Un homme va être chargé de coordonner ce coup d'État, c'est le major Carvalho. Il a servi en Angola, Carvalho, en Guinée également, sous les ordres de Spinola. Et le 23 avril 1974, il installe son QG secret dans une caserne du 1er régiment du génie à Pontinha, un quartier qui se trouve au nord de Lisbonne. Et un opposant qui est en exil à l'époque, qui se trouve à Paris et qui depuis Paris observe tout ça avec intérêt, c'est le socialiste Mario Soares. Il était professeur à Lisbonne, il a défendu les prisonniers politiques, il a été arrêté et banni sur l'île de São Tomé, au large de la Guinée-Bissau. Et au retour, il s'est donc exilé en France et il a fondé le Parti Socialiste Portugais. Le 24 avril 1974, il est à Bonn, qui à l'époque est la capitale de la République fédérale d'Allemagne, invité par les sociaux-démocrates allemands. Et voilà ce qu'il leur dit, Soares. Les événements s'accélèrent à Lisbonne. Si le régime tombe, il faudra nous aider à éviter une vague communiste. Ah, Mario, Mario, tu es un idéaliste, sois lucide. Il faut te faire à l'exil. Mais je ne rêve pas, ça bouge. Ça bouge surtout dans l'armée, répond Suarez. Écoute, on connaît des gens à l'OTAN et les Américains sont catégoriques. Il ne se passera rien. Il faut vous dire qu'après l'échec de la mutinerie là, qui avait eu lieu dans un premier temps, la police politique portugaise, la sinistre PID, a l'intention de tout tenir. On surveille, d'ailleurs le CIA aussi surveille tout ce qui se passe au Portugal. Mais le 24 avril 1974, à 11h05 du soir sur les ondes de Radio Clube Portugais, retentit la chanson « E depois de adeus » et « Après l'adieu », chanson d'amour en version symphonique avec des arrangements disco. C'est la chanson qui a été présentée justement à l'Eurovision 74 par le Portugal. Et c'est le signal que Carvalho, le major Carvalho, avait choisi pour déclencher le coup d'État. À minuit 20, autre chanson diffusée sur les ondes de Radio Renaissance et qui confirme le premier signal. Le titre, Grandola Villa Morena. Cette fois, c'est un chant de lutte composé par un opposant en exil. Il se trouve en Normandie, lui, José Alfonso. Et les paroles disent « Grandola, ville brune, terre de fraternité, seul le peuple commande dans ton enceinte, ô cité ». C'était le signal. 150 officiers, 2000 soldats quittent leur caserne. Ils se mettent en route pour prendre les centres de commandement, les centres de communication de la capitale. C'est un coup d'État qui est parti et qui est en marche. Batucué, un air de Oscar Lorenzo Fernandez, qui n'est pas vraiment portugais, mais qui est brésilien, même s'il était d'origine espagnole. L'Orchestre Philharmonique de New York était sous la direction de Leonard Bernstein.
Vous écoutez Radio Classique.
En ce soir du 24 avril 1974, donc dans cette nuit du 24 au 25 avril, en fait, les militaires rebelles ne sont pas très nombreux, vous l'aurez compris, puisque le gros de l'armée, de toute façon, se trouve dans les colonies où on continue de se battre. Eux vont, sur place à Lisbonne, investir rapidement la radio-télévision, les écoles militaires. Ça va très vite, hein. À 4h26 du matin, il s'exprime à la radio au nom du fameux mouvement des forces armées. Il demande à la population de bien rester chez elle, surtout ne pas sortir. Carvalho, depuis son QG de Pontina, demande à la police de ne pas intervenir pour éviter tout accident de personne. Et le chef de la police politique réveille le président du conseil. La révolution est dans la rue, monsieur. Il faut vous mettre à l'abri dans la caserne Carmo, c'est plus sûr. Il y a la garde nationale. Et Caetano, avec quelques ministres qui sont là, vont se réfugier donc dans cette caserne et tenter d'organiser la riposte. En catastrophe, bien sûr. Il y a un jeune capitaine Maya, il a 29 ans, à la tête d'une brigade de chars. Il est déjà en train de rouler vers le quartier des ministères. Vous savez, cette grande et belle place de Lisbonne qu'on appelle le Terreiro do Paço. Et là, il fait face quand même à un certain nombre de troupes. Il y a encore un gouvernement légal. Le capitaine Maya s'approche pour parlementer. Il a un mouchoir blanc dans une main. Dans l'autre, il tient une grenade quand même. Je suis là sur ordre du général Spinola, dit-il. Le nom du général au monocle est un sésame. On va laisser Maya et ses hommes prendre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense et la Banque Nationale Portugaise. Et peu à peu dans la matinée, ce sont des groupes étudiants, des lycéens également qui vont se diriger vers le centre. On comprend que le putsch annoncé à la radio n'est pas un coup des ultras, mais plutôt un coup des libéraux. Et on ovationne les militaires. Ce sont des scènes qui ont été montrées évidemment partout. Yves Léonard, dans un ouvrage publié l'année dernière et qui s'appelle « Sous les œillets, la révolution », Yves Léonard nous dit « C'est en remontant la rue Augusta vers le Rossio que, dans la colonne de blindés, un soldat penché sur un M47 interpelle une femme pour avoir une cigarette. Celle-ci lui rétorque qu'elle n'en a pas, mais seulement des œillets. Le soldat récupère les œillets, en coupe un pour le placer au canon de son fusil et imité par ses frères d'armes. » Céleste Caero avait prévu de vendre ses œillets à un restaurant tout proche qui, au vu des événements, a décidé de rester fermé. Renonçant à vendre les œillets rouges, Céleste et d'autres vendeuses de fleurs du Rossio vont les distribuer généreusement aux soldats conduits par Maya vers la place du Carmo. Le coup d'état militaire vient de trouver son nom aux couleurs du printemps et de la révolution. Ce sera donc la révolution des œillets. Je précise qu'Yves Léonard, justement, vient d'accorder à Laurent Lemire un entretien à l'occasion de ce cinquantenaire de la révolution des œillets, entretien publié dans le numéro d'Historia qui vient de sortir et qui se trouve en kiosque depuis quelques jours. Revenons à Maya et à ses hommes qui cernent maintenant la caserne de Carmo, où Caetano et les ministres se sont donc réfugiés, vous l'avez compris. La foule est massée là maintenant et Maya va faire tirer sur la façade. Caetano refuse de sortir. Finalement, on voit le général Spinola débouler pour négocier avec lui. Le président du conseil lui remet sa démission pour que le pouvoir ne tombe pas dans la rue, dit-il. C'est-à-dire, quand on dit dans la rue et qu'on est Caetano, ça veut dire aux mains des communistes. À 7h30 du soir, 19h30, un blindé entre dans la caserne. Caetano et les ministres grimpent là-dedans. Le véhicule traverse la foule sous les huées, vous l'imaginez, on les emmène à l'aéroport pour prendre un avion en direction de Madère et puis un autre pour le Brésil où une autre dictature militaire va les accueillir. Aucun d'eux ne sera poursuivi, il faut le préciser. À Lisbonne qui est en ébullition, c'est pas la première fois que ça arrive, me direz-vous, mais la foule maintenant fait le siège de la FIDE. Les policiers de cette terrible brigade, de cette PIDE, les policiers tirent à la mitraillette sur la foule. 4 morts, une vingtaine de blessés, ce seront les seules victimes de la révolution. Les policiers se rendront le lendemain matin. À 8h05, toujours le 25 avril, communiqué de la radio, le mouvement des forces armées proclame son intention de mener à bien un programme de sauvetage du pays et de restitution au peuple portugais des libertés civiques dont il a été privé. À cette fin, il confie le gouvernement à une junte de salut national. Et dans la nuit il est 1h30 du matin, le général Spinola va apparaître à la télévision. Il se présente comme le président de cette junte qui associe tous les corps d'armée. Il annonce la tenue d'élections pour une assemblée constituante et l'élection d'un président de la République. Mais ici, il dit vouloir, je cite, préserver l'unité de la nation dans son tout intercontinental, ce qui signifie que pour lui, il n'est plus question de décoloniser. Spinola est tout de suite, dès les premières heures de cette révolution, en train de prendre ses distances avec le fameux mouvement, le MFA. Les premières dissensions, si vous voulez, sont en train de voir le jour entre les maîtres du Portugal. Ce terme « son tout intercontinental » a évidemment été une douche froide pour un certain nombre de ceux qui venaient de prendre le pouvoir. Pour le moment, Spinola et le MFA ordonnent la libération de tous les prisonniers politiques, ils abolissent la censure, ils suppriment la fameuse PIDE, la fameuse police politique, les milices du régime, le parti unique, ils rétablissent le droit de manifester, on va créer tout de suite des journaux. Dans le Times, Bernard Lanvin s'étonne. Le régime disparaît en quelques heures comme s'il n'avait jamais existé, dit-il. Les jours suivants, c'est l'allégresse. Le 1er mai 1974, 500 000 Portugais se rassemblent sur l'esplanade Terreiro do Poço, et dans les villes, au Paço. On crie « Le peuple est avec le MFA !» On n'avait pas vu les foules depuis les années 20. Les grands exilés politiques apparaissent sur l'estrade. Il y a donc ce fameux socialiste dont je vous parlais, Mario Soares, bien sûr, et le communiste Álvaro Cunhal. Et puis, sont arrivés de Paris par le train du Sud quelques jours plus tôt, un certain nombre de ceux qui les accompagnent. Et la foule est là qui les acclame. Après l'euphorie, que va devenir le processus démocratique qui vient d'être simplement proclamé? Le pays est fragile toujours, il y a toujours les mêmes guerres. Cette crise économique, elle va pas changer du jour au lendemain, elle va pas se résorber du jour au lendemain. Il y a un pouvoir maintenant qui est aux mains des militaires, il y a une cinquantaine de partis politiques qui se sont créés, tous sont tantôt au centre, tantôt à gauche. La droite qui était au pouvoir à travers cette dictature depuis tant d'années fait profil bas. À l'époque, le Parti populaire démocratique de centre-droit revendique 20 000 adhérents, le Parti socialiste 80 000, le Parti communiste 100 000. Faut dire que ce Parti communiste, il était resté implanté dans le pays comme une sorte d'organisation clandestine, un peu de résistance. Il possède tout un réseau de militants qui sortent de l'ombre avec beaucoup de relais dans l'administration et les syndicats. Et les communistes sont en train de noyauter ce nouveau, ce tout jeune pouvoir. Ils prônent par exemple l'unité syndicale et pour le moment, le président Spinola, avec sa junte, avec le MFA et le Parti socialiste, essaie de faire barrage, mais déjà, ça y est, il y a des grèves dans tout le pays. D'autres mouvements, les mouvements trotskistes, vont réclamer eux aussi une révolution sociale. N'oubliez pas qu'on est en 74. Alors, on peut vraiment se demander vers où se dirige cette révolution des œillets et ce qui pourrait bien l'arrêter. La quatrième des Bacchanas Basileiras de Villa-Lobos pour grand orchestre, le New World Symphony, sous la direction de Michael Tilson Thomas.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et c'est la grande agitation sociale au Portugal. Il y a un mouvement contre-révolutionnaire qui se forme, qui est soutenu par un certain nombre de nostalgiques de Salazar. Ils sont beaucoup plus nombreux qu'on le penserait. Mais aussi par le grand voisin qui voit cette révolution d'un très mauvais œil. C'est l'Espagne du général Franco. Et puis, il y a tous ceux qui veulent aussi maintenir l'empire colonial parce qu'ils y ont divers intérêts. Le président Spinola, si vous voulez, joue un jeu assez trouble. Il entend bien incarner ce mouvement contre-révolutionnaire. Il menace même de proclamer l'état de siège et d'interdire les manifestations. Il y en a qui l'appellent Spinochet, hein, parce qu'il est en train un peu de retourner sa veste. Le 11 mars 75, quelques officiers vont tenter un contre-coup d'état et vous avez bien compris qu'à leur tête se trouve l'incontournable général Spinola. Sauf que ce contre-coup d'état ne fonctionne pas. L'armée ne suit pas. L'armée veut aller vers la démocratisation du Portugal et Spinola va devoir fuir en Espagne. Le résultat, c'est que les communistes étendent d'autant plus leur influence avec maintenant 4 ministres au gouvernement. Le 25 avril 75, des élections constituantes se tiennent. 25 avril 75, vous voyez, ça fait pile un an que la révolution a eu lieu. La participation est énorme. 92% des Portugais vont voter. Le Parti Socialiste obtient 38%, le centre-droit 26%. Les communistes seulement 12,5%, et ça leur plaît pas aux communistes qui tout de suite vont déclencher des grèves, vont occuper les usines, vont même occuper les journaux. Manœuvre de déstabilisation orchestrée, vous l'imaginez bien, en sous-main par Moscou. On est en 1975, l'URSS de Brejnev est en plein dans cette affaire, on est en pleine guerre froide. Le 25 novembre 75. Entre parenthèses, il faut noter que là, on est 5 jours après la mort de Franco. C'est pas tout à fait un hasard. Des officiers communistes vont tenter un putsch depuis la base des paras de Tancos. Et là aussi, c'est un fiasco. Même le Parti communiste finit par reculer au dernier moment. Et après l'échec de ce putsch, il y a eu un putsch d'extrême droite, un putsch communiste. Finalement, c'est le Parti socialiste de Mario Suarez qui va faire figure de force d'appui et de stabilisation. Ce sont les modérés, si vous voulez. Mario Suarez reçoit notamment des appuis de la part du chancelier social-démocrate allemand, Helmut Schmidt, mais aussi de la part du pape Paul VI et même de l'ambassadeur américain Frank Carlutti qui surveille tout ça. Quand je dis qui surveille tout ça, celui qui surveille, c'est le chef de la diplomatie américaine, c'est Kissinger, bien entendu. Le soutien des Américains est surprenant. Kissinger est secrétaire d'État donc de Gerald Ford à l'époque, qui a remplacé, vous savez, le président Nixon à la suite de l'affaire du Watergate. Et 2 ans plus tôt, Kissinger avait favorisé le coup d'État de Pinochet au Chili contre un célèbre socialiste, Allende, de peur que les communistes ne prennent le pouvoir. D'ailleurs, Kissinger va dire à Suarez, vous êtes le Kerensky portugais. Kerensky, c'était le chef du gouvernement démocratique russe après la révolution de février 17. Et vous savez qu'il avait été déposé par les bolcheviks à la faveur du coup d'État bolchevique d'octobre 17. Kissinger redoute que ce soit la même chose au Portugal. Or, le Portugal fait partie de l'OTAN. Il a donc fait préparer, Kissinger, un plan d'invasion du Portugal, mais Helmut Schmidt s'est opposé au scénario américain. Il a proposé une autre stratégie qui était de financer le Parti Socialiste Portugais et ses relais, d'atteler le Portugal à l'Europe avec des aides, et le patron du PS, Soares, va pouvoir entrer lui-même dans ce plan et donner des garanties. Et Kissinger va donc décider de laisser faire parce qu'on est en Europe et qu'on n'est pas en Amérique du Sud, d'une certaine manière. Soares finit par prendre la tête du gouvernement provisoire, il exclut les communistes, il purge l'armée et il aura cette fameuse phrase « La révolution communiste était un tigre de papier ».
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Les 3 gouvernements provisoires successifs vont appliquer la décolonisation qui avait été promise, rappelez-vous. Soares conclut 5 accords avec la Guinée-Bissau, le Mozambique, le Sao Tomé et Principe, le Cap-Vert bien sûr et l'Angola. En avril 76, la Constituante accouche d'un régime semi-présidentiel. La Seconde République voit le jour 50 ans après l'enterrement de la première par la dictature en 1926. Et 10 ans plus tard, en 86, vous savez que le Portugal, avec l'Espagne d'ailleurs, entrera dans ce qui deviendra bientôt l'Union européenne. On peut dire que le programme des capitaines d'avril 74, c'est-à-dire décolonisation, démocratisation, développement. Bah, ce programme, il aura été bon an mal an respecté.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Pierre Anquetin de s'être plongé dans les soubresauts de cette révolution portugaise. Et voici, venant lui d'un peu moins loin, de Bordeaux, Christian Morin. Bonjour Christian.
Non, je ne suis pas venu à pied ce matin quand même. Quand je suis rentré dans le studio, vous étiez en train de prononcer le mot énorme. Pourtant, je ne trouve pas tellement si épais que cela.
Vous avez lu entre les lignes.
Oui, en quelque sorte. Bonjour mon cher Franck. Alors cet après-midi, on change carrément de sujet après cette révolution des œillets. C'est Verdi avec, encore que, c'est la renaissance italienne, l'unification italienne qui va être évoquée au travers de Verdi, Viva Verdi, comme l'on disait, mais ça n'avait rien à voir avec le compositeur.
Quoique.
Oui, Viva, oui, mais c'était Emmanuel Rey d'Italia.
C'est ça.
Voilà, c'est ça. Ce que vous nous raconterez en détail, par le menu, comme l'on dit. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez l'air en pleine forme aujourd'hui.
Une forme presque révolutionnaire avec ce printemps.
Oui, oui, comme vous dites. Et puis, on se retrouve bien sûr avec grand bonheur demain matin, dès 8h05, aux côtés de notre ami David Abiquière. Et puis ensuite, à 9h, Franck Ferrand raconte. Raconte quoi ? Je ne vous le dirai que après l'avoir entendu demain matin avec vous.